autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation, pour nous demander pourquoi nous sommes si sensibles à la beauté de la nature. Un coucher de soleil, un ciel étoilé, une clairière dans la forêt nous laisse sans voix, muet d'admiration. Pourquoi ça nous touche tant? Pourquoi le spectacle de la nature fait tant de bien aux humains que nous sommes, aux urbains que nous sommes devenus? Qu'est-ce que cela dit de nous? Notre invité, l'écrivain, philosophe Alexandre Lacroix, a mené l'enquête forcément vagabonde à travers les disciplines, les âges et les continents, regard croisé de philosophes et de scientifiques, d'écrivains, de biologistes et d'artistes, autour de la question pourquoi tant d'émotions devant la beauté de la nature. Bienvenue. Bonjour Alexandre Lacroix.
Bonjour.
Merci d'être venu au son des petits oiseaux, partager votre érudition et votre sensibilité sur RFI. Vous êtes écrivain, directeur de la rédaction de Philosophie Magazine. Vous venez de publier, Alexandre, aux éditions Alary, un essai passionnant, « Devant la beauté de la nature », dans lequel vous convoquez aussi bien les philosophes que les écrivains, les scientifiques ou les artistes, pour tenter de répondre à une question apparemment simple. Pourquoi aimons-nous des couchers de soleil? Pourquoi les trouvons-nous beaux? C'est une question philosophique, ça?
Oui, bien sûr, parce que on peut comprendre très, très facilement pourquoi les êtres humains ont un rapport instrumental, utilitaire avec leur environnement. La nature nous prodigue de l'eau, des fruits, de la viande, pour ceux qui en mangent encore, et de l'énergie, des matières premières. Donc ce rapport instrumental, utilitaire, est parfaitement compréhensible. Néanmoins, les êtres humains vont plus loin, ils ont un rapport affectif, émotionnel, et puis il faut bien le dire esthétique, un rapport d'admiration, de fascination pour le ciel étoilé, pour le coucher de soleil, pour la pluie. Tiens, c'est un invariant ça, on sait que partout dans le monde, quand il se met à pleuvoir fort, Homo sapiens, l'être humain, lève la tête et avant même de chercher un abri, s'arrête et écoute pendant quelques instants. Nous avons donc ce rapport de fascination, de contemplation, d'émotion avec la nature qui ne sert à rien.
Et sauf qu'il fait du bien.
Sauf qu'il fait du bien. Alors c'est une question philosophique, si vous voulez, qui admet une réponse assez simple si on est assez fermement croyant et si on est convaincu que la nature est la création d'un artiste omniscient, omnipotent, c'est-à-dire Dieu. Le mystère à ce moment-là se dissipe un petit peu parce que on peut se dire que cette nature c'est la plus grande des œuvres d'art et puis si Dieu nous a créé à son image comme le veulent les monothéismes, alors il nous a placés au sein de la nature et il y a tout un rapport d'harmonie et de proportion entre le créateur, la créature et la création. Mais si jamais vous vous éloignez un tout petit peu de cette façon de voir, ou vous vous posez la question à blanc, je dirais qu'en fait c'est une question qui est absolument vertigineuse pour un athée, un agnostique ou simplement un sceptique, quelqu'un qui se pose des questions. La meilleure objection que vous puissiez faire à un athée, en quelque sorte, c'est de le placer devant un paysage et de lui dire, vous le placez devant un coucher de soleil sur la mer et vous lui dites, bon, alors comment tu expliques
face
tout
à ça,
ça
qu'est-ce que tu dis?
Qu'est-ce que tu as à dire? Voilà. Et donc, c'est une question dont on doit s'occuper philosophiquement.
Or, les philosophes ne s'en sont pas tant occupés que ça. Hein. C'est ce que vous dites en préface de votre livre, Alexandre Lacroix.
Alors,
c'est pas un sujet qui a tellement été pris par la philosophie, par les poètes, oui, mais pas par les philosophes.
Alors, il y a un interdit qui pèse autour de cette question. Quand Hegel enseigne à l'université de Berlin de 1818 à 1829, il anime un cycle de cours absolument monumental sur l'esthétique. Et or, dès le début de ce cours sur l'esthétique, Hegel dit que l'esthétique est la discipline qui se préoccupe exclusivement du beau artistique et qu'elle ne doit pas se préoccuper du beau naturel. Il précise aussitôt qu'il ne résoudra pas la question de savoir s'il existe quelque chose comme un beau naturel ou non. Ça l'emmènerait trop loin, dit-il. Et comme il est idéaliste et qu'il y a un certain mépris chez lui pour tout ce qui est lesté de matière, donc pour les paysages, il ajoute cette provocation complètement folle. Il dit que l'idée la plus banale ou la plus médiocre qui traverse l'esprit d'un homme est plus belle et plus grande que le soleil. Alors imaginez, pensez à l'idée la plus banale et la plus médiocre qui vous est venue depuis ce matin, et dites-vous qu'elle est plus grande.
Non, je ne vais pas la mettre à côté d'un beau coucher de soleil. Hein.
Voilà. Et donc, Hegel a spécialisé très durablement l'esthétique, comme il a fait de l'esthétique, la discipline qui s'occupe de l'art. Quand j'étais étudiant en philosophie, on parlait de philosophie de l'art. C'était un département, voilà, on avait des cours en philosophie de l'art.
Mais il n'y a pas de philosophie de la beauté de la nature.
Ben non, il y en a un tout petit peu dans quelques coins du Canada, des États-Unis, on appelle ça l'esthétique environnementale, mais ça ne concerne que quelques spécialistes. Et du coup, cet interdit hegelien, jusqu'à nos jours, pèse. Donc on a des tas de traités sur la peinture, abstraite, la musique atonale, tout ce que vous voulez, des traités raffinés. Mais en fait, sur cette question qui est beaucoup plus importante pour chacun de nous, parce qu'on va un peu au musée, mais je pense que vous, comme moi, comme une grande partie des auditeurs, on a un besoin immense de regarder la rivière, la mer, le ciel, de sentir le vent sur sa peau, même si on vit en ville. La nature est très importante pour chacun de nous, mais finalement sur cette question si essentielle pour nos existences, ces contacts dont on a tellement besoin avec l'environnement naturel, avec les animaux, les végétaux, et bien sur ces questions on est philosophiquement démunis.
Alors on va essayer justement d'être un peu moins philosophiquement démunis et de partir sur la piste de toutes les émotions que provoque en nous la beauté de la nature. Je propose d'abord un premier éclairage, c'est celui d'une sociologue de l'environnement qui était récemment notre invitée, Anne Atlan.
Il y a la beauté du sublime, celle qu'on décrit toujours comme l'Antarctique, mais qui peut être un coucher de soleil, un ciel, quelque chose qui fait qu'on se sent très petit ou qu'elle est très grande et qu'on a une harmonie avec la nature, quelque chose qui nous met à notre place d'être humain dans la nature face à l'universel. Donc ça, c'est quelque chose que pas beaucoup d'autres éléments que la nature peut nous apporter. Vous avez une beauté qui est une perception de l'harmonie des formes et des couleurs qui va exister aussi, qui va donner une certaine émotion plus bienveillante. Et puis, il y a, pour nous les scientifiques, c'est assez important aussi la beauté cognitive que j'appellerais, c'est-à-dire le fait de savoir va faire trouver une émotion. Tiens, c'est la dernière fleur de cette espèce qui existe, ou l'une des dernières, et hop, je vais avoir une émotion supplémentaire. Donc ce sont ces trois formes d'émotions qui existent devant la beauté de la nature, et certaines d'entre elles, je pense, ne peuvent être apportées que par la nature.
Vous voulez réagir à ces propos de la sociologue de l'environnement Anne Atlan, Alexandre Lacroix, la connaissance, l'harmonie, le sublime, trois émotions provoquées par la nature?
Alors, je laisserai de côté un petit peu la connaissance, c'est pas le domaine dont je m'occupe. Néanmoins, ces propos font directement écho à une théorie anglaise, donc qui est d'un philosophe qui s'appelle Edmund Burke, qui publie en fait en 1757 les considérations sur le beau et le sublime, et qui va bien distinguer la notion de beau et de sublime. C'est en fait assez simple. Le beau, pour Burke, c'est dans la nature tout ce qui tend vers la vie. La jeune fille, la fleur, l'arbre naissant, la pousse, l'herbe verte, le printemps et la saison de la beauté. On pourrait dire que, si on lit bien Burke, il y a presque quelque chose d'un peu qui va rappeler Freud plus tard, c'est-à-dire c'est Eros, quoi. Le beau, c'est l'harmonie des formes et des couleurs en tant qu'elles exaltent en nous la vie. Et puis, le sublime, c'est quelque chose qui esthétiquement nous frappe, nous paraît très beau, l'éruption d'un volcan, la nuit noire, les ténèbres.
Ça peut être effrayant aussi, le sublime.
La tempête,
hein, c'est
ça. La tempête, oui, bien sûr. Et peut-être sublime, même l'ouragan, si on est protégé et qu'on le voit en spectateur, le déferlement des vagues de l'Atlantique. Alors, ça, c'est le sublime, se mêle au sublime. D'abord, il y a des disproportions et des disharmonies dans le sublime, c'est-à-dire que c'est grand et c'est inquiétant. Et donc, il y a cette frayeur qui se mêle à nos émotions esthétiques, ce vertige. Le sublime est toujours teinté de thanatos. J'ai dit que le printemps était la saison de du beau, hein, au sens de Burke. Eh bien, la saison du sublime, ce sera la fin de l'automne, l'hiver, en tout cas en zone tempérée.
C'est-à-dire aussi que la nature, la beauté de la nature, nous met face à nos existences aussi, hein, tirées entre Eros et Thanatos, entre le beau, la vie, et puis d'autres pulsions, d'autres frayeurs, d'autres angoisses, la question du temps aussi.
Mmh. Oui, ce qui est important, je crois, c'est d'ouvrir un petit peu son champ de perception, de réceptivité à la nature, en se disant qu'il y a des choses qui sont évidemment belles, des collines, des dunes, ce qui est arrondi, doux au regard. Mais en fait, si vous regardez les choses de façon plus large, vous voyez que le disproportionné, le vertigineux, un gouffre peut-être sublime, également le difforme. C'est-à-dire que le tronc particulièrement noueux d'un olivier, par exemple, une chute d'eau, une cascade extrêmement tortueuse, extrêmement capricieuse, ça va pouvoir susciter notre admiration. Là, on n'est ni tout à fait dans le beau, ni tout à fait dans le sublime. On est quelque part, et les Anglais ont aussi inventé un terme pour ça, c'est ce qu'ils appellent le picturesque. Le picturesque ou le pittoresque, c'est ce qui est digne d'être représenté en peinture. C'est tout ce qui vient frapper notre œil parce que c'est un peu biscornu. Le petit chemin irrégulier avec des racines qui s'enfoncent dans la forêt, il sera peut-être picturesque.
Il y a peut-être aussi un miroir hein, avec nos paysages intérieurs, parfois.
Bien sûr. Et en tout cas, vous voyez, ici, on a déjà quelques pistes philosophiques, c'est-à-dire pour élargir nos émotions esthétiques.
Alors, pour élargir justement nos émotions esthétiques, comme piste philosophique, vous le dites, il y a des sages des villes et il y a des sages des champs. Mmh. On pense évidemment à Rousseau, promeneur solitaire. Vous citez sa correspondance, Alexandre Lacroix, extrait d'une lettre donc de Jean-Jacques Rousseau, écrite en 1726. Rousseau se décrit assis dans un lieu reculé, dans la forêt, en train d'admirer l'or des genêts, la pourpre des bruyères, la majesté des grands arbres, la délicatesse des arbustes.
Alors, l'esprit perdu dans cette immensité, je ne pensais pas, je ne raisonnais pas, je ne philosophais pas. Je me sentais avec une sorte de volupté, accablé du poids de cet univers. Je me livrais avec ravissement à la confusion de ces grandes idées. J'aimais à me perdre en imagination dans l'espace. Mon cœur resserré dans les bornes des êtres s'y trouvait trop à l'étroit. J'étouffais dans l'univers. J'aurais voulu m'élancer dans l'infini. Je crois que si j'eusse dévoilé tous les mystères de la nature, je me serais sentie dans une situation moins délicieuse que cette étourdissante extase à laquelle mon esprit se livrait sans retenue et qui, dans l'agitation de mes transports, me faisait crier quelquefois « Ô grand être ! Ô grand être !» sans pouvoir dire ni penser rien de plus.
Sans pouvoir dire ni penser, c'est Rousseau qui l'écrit dans une lettre. On est là presque, Alexandre Lacroix, on est dans l'extase mystique, pratiquement dans le sentiment océanique aussi.
Oui, ce qu'il dit, le passage clé de cette lettre, c'est il dit « Si j'eusse voulu dévoiler tous les mystères de la nature, j'aurais moins apprécié cette expérience. » Ce qui veut dire par là, c'est que si je m'étais intéressé en scientifique à la nature à ce moment-là, je serais passé à côté de l'extase. Rousseau ici est en avance sur son temps. En fait, il est en train d'inventer la sensibilité romantique. Et c'est une sensibilité qui est tout à fait liée aux Lumières. Il y a quand même un moment en Europe où la nature... où un nouveau lien à la nature s'invente. Je dois dire que c'est un lien qui me parle assez, je me sens assez romantique par certains côtés, mais c'est-à-dire qu'au moment où l'explication religieuse du monde le cède un petit peu à l'avancée de la rationalité, du progressisme, des sciences, il y a un affaiblissement donc du discours religieux, les poètes, les peintres, les écrivains romantiques ou pré-romantiques dans le cas de Rousseau ou dans le cas de Goethe en Allemagne vont dans la nature pour y vivre des expériences qui ressemblent à ce qu'on vit au temple ou à l'église. Hein. C'est-à-dire que
pour être avec ce qui nous dépasse en fait.
Pour pouvoir dire tu à la totalité de l'univers ou du cosmos. Pour pouvoir, vous voyez, l'attitude de la prière, c'est une attitude très particulière, une attitude mentale où on dit tu au tout du cosmos ou au tout de l'univers. On ne sait pas très bien à qui on dit tu, on adresse ce qu'on est à ce qui nous dépasse, à ce tout du monde qu'on n'arrive pas à cerner, sur lequel on peut mettre le mot de Dieu, mais il y a quelque chose qui se dérobe. Eh bien, ce que vont faire les romantiques quand ils vont en forêt, quand ils vont au bord de mer, c'est exactement chercher cette proximité, cette extase, donc cette sortie de soi-même, on sort de ses petits soucis, de ses petites préoccupations.
Et on cherche et on trouve peut-être aussi parfois ce qui nous relie à la nature et aux autres. Vous faites ce lien-là aussi.
Moi, je pense que les romantiques voient juste dans la mesure où quand on est devant un ciel étoilé, pour prendre un exemple, tout d'un coup, nos petites préoccupations, nos petits soucis quotidiens sont relativisés. On voit bien qu'on court après quelques lièvres au travail, on peut avoir des soucis dans sa vie affective, personnelle, mais tout d'un coup, ces petites intrigues, en fait, de la vie sociale, de la vie familiale, sont remises à une échelle moindre. Il y a les étoiles qui sont là, et moi-même, qui ai une conscience éveillée, qui ai des yeux pour percevoir ces étoiles, c'est une expérience métaphysique, en fait. C'est-à-dire que tout se passe comme si l'univers formait une sorte de pli, et qu'il y avait dans l'univers, un lieu où l'univers pouvait se regarder et s'admirer lui-même. Ce lieu, c'est l'homme. Et on voit bien que là, il y a quelque chose qui donne un prix à la beauté de la nature qui n'est pas du tout du même ordre que la fascination pour une œuvre d'art.
Vous citez un compositeur de musique d'ailleurs qui dit, je ne sais plus la phrase exacte, mais quel serait le bruit de la chute d'une branche d'arbre s'il n'y avait personne pour l'entendre
Oui, c'est Murray Schafer. C'est un ingénieur du son et un compositeur qui a inventé la notion de soundscape, c'est-à-dire de paysage sonore. Il est allé enregistrer des paysages. Il a eu une grande descendance dans les recherches sur l'acoustique. Et c'est quelqu'un qui effectivement rêve du fait que les arbres, peut-être quand nul humain n'est là pour les écouter, se mettent à chanter, se mettent à parler ou à réciter du Shakespeare. En fait, ça c'est une hypothèse un peu farfelue, mais on voit bien qu'une des saveurs de l'admiration qu'on a pour la nature, et je crois que l'œuvre d'art provoque pas la même chose, c'est qu'elle nous met en contact avec du métaphysique, avec ce qui nous dépasse, avec l'essentiel, avec le mystère de l'univers et de la vie. Alors, vous voyez bien que j'emploie une série de périphrases pour nommer quelque chose qui est un peu de l'ordre de l'indicible. Mais c'est cet indicible-là qu'on va chercher dans la nature.
Je propose de l'écouter, cet indicible pieds nus sur la terre sacrée. Un poète, musicien et militant engagé pour la cause amérindienne, voix des Indiens d'Amérique, le regretté John Trudell sur RFI, Crazy Horse.
Crazy horse, we hear what you say. One earth, one mother. One does not sell the earth, the people walk upon. We are the land. How do we sell our mother? How do we sell the stars? How do we sell the air? Crazy horse, we hear what you say. Too many people standing their ground, standing the wrong ground. Predator's face, he possessed a race. Possession, a war that doesn't end. Children of God, feed on children of earth. Days people don't care for people. These days are the hardest. Material fields, material harvest. Decoration on chain that binds. Mirrors gold. The people lose their minds. Crazy horse, we hear what you say. One earth. One mother. One does not sell the earth. The people walk upon. We are the land.
À l'écoute de Crazy Horse, hymne à la terre sacrée, conscience écologique des Indiens d'Amérique, signé du poète, rocker et militant amérindien John Trudell sur RFI. Autour de la question pourquoi tant d'émotions devant la beauté de la nature, nous menons l'enquête en compagnie de l'écrivain, philosophe Alexandre Lacroix. Dans votre essai, Alexandre, vous nous entraînez évidemment dans ces grands espaces nord-américains, Into the Wild, dans ces espaces sauvages chantés par John Trudell, mais aussi par les poètes, Walt Whitman, Santoro, qui ont mis en mots cette fascination, cet indicible, ce saisissement face à la nature et à ces paysages-là, grandioses.
Oui, ce qui est intéressant, c'est que cette sensibilité romantique qui naît en Europe et dont nous venons de parler, qui naît avec des gens comme Goethe ou Rousseau, va traverser l'Atlantique. Ces auteurs sont lus aux États-Unis par les poètes, les intellectuels, les peintres. Mais eux-mêmes sont confrontés à une nature qui a peu à voir avec le spectacle de la nature européenne. C'est-à-dire que Rousseau, quand il s'exalte, il est dans des forêts, des cantons suisses. En fait, il est dans de la prairie, c'est-à-dire il est à la campagne.
C'est à notre mesure, disons.
Voilà. Et ces auteurs américains vont tout d'un coup, eux, avoir à explorer, à se représenter ce que sont les grands espaces, la wilderness. Alors dans une période, en même temps, qui est une période sombre, hein, d'expansion impérialiste vers l'ouest et de d'éradication, de génocide des Amérindiens. Donc c'est une période qui n'est pas gay par certains côtés, mais vous avez cité Henry David Thoreau. Il a fait cette expérience de se retirer quelque temps au bord d'un petit lac dans les bois, mais il a aussi voyagé dans les grandes forêts du nord-est des États-Unis. Il en a tiré un livre qui s'appelle Dans les forêts du Maine, et que je cite d'ailleurs. Mais c'est vrai que à ce moment-là, il parle donc de choses qui ont disparu aujourd'hui, c'est-à-dire d'immenses forêts primaires qui couvrent tout le nord-est des États-Unis, forêt primaire, c'est-à-dire intouchée par la main de l'homme, non exploitée. Il décrit partout des scieries, c'est-à-dire partout des Anglo-Américains au travail, des Irlandais au travail pour couper ce bois, le débiter et alimenter en charpente les villes qui se construisent un peu partout dans les États-Unis.
Oui, la destruction de cette magnifique nature sauvage est en marche.
Oui, mais ce que vont chercher en fait, et c'est ça qui est très beau, ces auteurs, ces poètes, des gens comme Thoreau dans ces forêts, il va vraiment au plus profond de la forêt, là où il n'y a plus que des Indiens et des ours et où les dangers sont multiples, il s'enfonce. Plus il va loin d'ailleurs, plus les derniers hommes qu'il rencontre sont, dit-il, des ermites, des sages, en fait des gens qui ont fui la civilisation dans la profondeur de la forêt. Et ce qu'il va rechercher, c'est quelque chose qui viendra recharger notre langage. C'est-à-dire que le point commun à tous ces romantiques américains, c'est qu'ils pensent, et d'ailleurs je le pense aussi, que le langage des hommes, la pensée des hommes tourne à vide dans l'atmosphère confinée des bureaux, des bibliothèques, dans les villes.
Il faut aller quoi ? S'aérer, marcher, se confronter à la beauté, parfois au saisissement de la nature,
oui, les mots,
à quelque chose de plus grand que nous ?
Oui, les mots non rechargés en sensations sont des mots pauvres en fait. C'est-à-dire que les mots nous font courir le risque de nous perdre, de nous noyer dans notre propre bain moussant, dans nos propres essais d'abstraction. Et je pense que lorsqu'on est devant un paysage, les choses se remettent tout naturellement en place. Par exemple, si vous êtes devant un très beau paysage, que vous écoutez une musique, si cette musique est puissante et belle, alors mettez ce que vous voulez, hein, si c'est du Coltrane, du Miles Davis ou du Mahler, ça va tenir le choc du paysage. Si la musique est pas belle, si c'est de la pop musique, elle va dissonner avec le paysage. Le paysage est trop beau pour cette musique-là. Mais de même, toutes les théories biscornues, névrotiques, toutes les hypothèses qui nous tournent en tête en permanence, tout ce qui nous tarabiscote, tous nos soucis aussi, tombe devant la beauté du paysage, là où quelques grandes pensées, on va dire, robustes peuvent rester. Et donc, il me semble que la philosophie ou l'exercice de la littérature ou de la poésie ou même la quête artistique gagne à se recharger du contact avec la réalité rugueuse. C'est pas antinomique, en fait, c'est le contraire. C'est-à-dire que les théories hors sol ou les poèmes hors sol, les mots hors sol, bah c'est du vent, quoi. C'est du vent. Et tous ces romantiques américains sont allés dans cette nature sauvage pour
se ressourcer, enfin ressourcer le langage aussi.
Pour ressourcer leur art, pour ressourcer leur peinture, pour ressourcer leur philosophie. Et ils y sont parvenus. C'est-à-dire qu'ils avaient séjourné en bibliothèque auparavant, c'était des gens savants, mais c'est ce contact avec la nature qui leur a permis d'aller plus loin.
Pourquoi nous, humains, sommes-nous si sensibles au spectacle de la nature ? C'est autour de cette question que nous tournons ensemble. Alexandre Lacroix, je vous propose un nouvel éclairage en forme de question, soulevé par le biologiste et généticien Pierre-Henri Gouillon, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris.
J'aimerais poser une autre question à partir de la question de l'émotion devant la beauté de la nature. Nous sommes des animaux qui sommes issus d'un processus évolutif Et nous avons évolué globalement dans la nature, telle qu'on la conçoit aujourd'hui. Je suppose qu'effectivement, tous les animaux sont sensibles à certaines particularités de la nature qui peuvent soit leur faire peur, si jamais ils voient arriver un prédateur, soit leur donner du dégoût, si jamais ils voient quelque chose qui peut être mauvais pour leur santé, soit peut-être leur donner une émotion positive, si jamais ils sont dans un environnement dans lequel ils ont l'impression qu'ils trouveront de quoi se sustenter et qu'on va pas les attaquer. Et je me pose la question de savoir, est-ce que cette émotion donc, que nous avons devant les beautés de la nature, et même ce que nous appelons beauté de la nature, ça ne serait pas tout simplement des conditions dans lesquelles nos ancêtres savaient qu'ils étaient relativement en sécurité et que du coup, ils pouvaient trouver la paix et ne pas se faire manger et trouver eux-mêmes à manger. Et du coup, bien sûr, la question c'est, est-ce que ces émotions, on peut les retrouver chez d'autres animaux que les humains ?
Avez-vous la réponse, Alexandre Lacroix ?
Quelques éléments de réponse qui viennent en fait de la psychologie évolutionniste, c'est-à-dire que ce raisonnement, un certain nombre de chercheurs en théorie évolutionniste américains se le sont fait. Donc l'hypothèse est la suivante, Homo sapiens est apparu pour ce qu'on en sait il y a 300 000 ans, les squelettes les plus anciens trouvés en Afrique du Nord en 2017 ont 300 000 ans. Homo sapiens a évolué avec les écosystèmes terrestres et donc si nous avons des préférences pour un certain type de paysage, ces préférences doivent être innées et liées à notre physiologie, à notre organisme. Et si c'est le cas, ça peut se vérifier expérimentalement. Et donc un certain nombre de chercheurs à la fin des années 70, parmi lesquels principalement John Bolling et John Falk, ont soumis des tests à de très larges échantillons de population aux États-Unis, en Scandinavie, en Indonésie, en Afrique noire, au Niger, et les résultats sont convergents. Le test était le suivant, ils soumettaient 5 biomes en photo.
C'est 5 biotopes, 5...
Ah oui, 5 biotopes, 5 environnements dans lesquels Homo sapiens a séjourné longtemps, parce que ça sert à rien de tester par exemple l'Arctique, les alentours de Thule au Groenland, vu qu'il y a trop peu de population pour qu'il y ait un impact évolutionniste sur l'ensemble de l'espèce. Donc les 5 biomes ou biotopes, en langage, hein, on est chez les biologistes, hein, c'est pour ça que j'emploie ce type de langage, sont la forêt de feuillus, la forêt tropicale, la forêt de conifères, la savane et le désert.
Qu'on préfère,
les résultats sont très convergents partout. Les êtres humains jusqu'à l'âge de 25-30 ans préfèrent la savane. Ensuite, la savane est mise en ballottage avec tantôt la forêt de feuillus, tantôt la forêt de
conifères.
Quand on avance en âge. Et le désert est toujours dernier et la forêt tropicale toujours avant-dernière. Ce qui signifie...
C'est la savane. Hein.
C'est
vraiment
savane.
La savane qui nous rassemble, qui nous émeut tout de suite. Enfin, la préférence innée, disons, ce serait la savane.
Pour la savane. Donc ça a poussé ces auteurs, Falk et Bolling, à faire ce qu'on appelle l'hypothèse de la savane, ce qui est une théorie dans le monde des sciences de l'évolution bien connue. L'hypothèse de la savane, c'est que nous autres êtres humains aurions une préférence innée pour la savane qui rassemble effectivement presque tout ce qui est bon pour nous. On peut voir au loin, on peut se cacher parce que les herbes sont hautes, on peut se mettre à plat ventre, il y a des abris, des rochers, des plans d'eau, des arbres bas, donc on peut cueillir les fruits, des fleurs. En fait, dans la savane, et des animaux bien sûr, et des nuages, donc d'une certaine humidité, on a besoin d'eau potable. Donc il y a à peu près tout ce qu'il faut pour la survie d'Homo sapiens. Évidemment, c'est une théorie ou un résultat qui est extrêmement frappant pour notre imagination, puisque on sait que le berceau d'Homo sapiens, ce sont les grandes plaines d'Afrique de l'Est, et que donc Homo sapiens a passé un certain temps dans les savanes avant de conquérir l'ensemble de la Terre.
Ça se serait imprimé dans notre cerveau, mais il y a aussi, vous l'avez dit en début d'émission, en parlant du printemps, en parlant de l'automne, il y a aussi la question des saisons quand même, parce que je trouve que dans notre émoi face à la nature, il y a aussi la question du temps, et du temps qui passe, et des préférences qui changent selon l'âge qu'on a. Vous avez dit savane au début, forêt de feuillus aux mesures qu'on avance dans la vie.
Ah oui, non mais on peut quand même faire plein d'objections, c'est-à-dire que c'est très intéressant de lire ces études évolutionnistes et les biologistes, et je suis certainement pas irrationnel, et je trouve qu'il faut se nourrir
mais
de ces résultats.
Mais c'est limitant, faut pas s'arrêter là.
Faut pas s'arrêter là, parce que une objection qu'on peut faire, une objection toute simple, il y en a plusieurs, mais une objection toute simple, c'est que la nature est belle dans toutes ses dimensions et dans toutes ses proportions. Si vous regardez une aile de libellule au microscope, elle est magnifique. Si vous regardez au télescope les anneaux de Saturne, c'est très beau. Si vous regardez la Terre vue depuis la Lune, et que parce que vous avez la chance d'y avoir mis les pieds, ou vous regardez
la
photo
Lune
de la NASA...
La Terre plutôt, hein.
La Terre depuis la Lune. Non, je choisis intentionnellement cet exemple, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas des biomes, qui ne sont pas des environnements.
On trouve ça beau et on est touché.
Voilà, et donc... Il y a dans notre lien avec la nature et dans notre admiration pour la nature quelque chose qui dépasse complètement les échelles auxquelles Homo sapiens a a évolué.
Autour de la question pourquoi le spectacle de la nature et de la savane, donc, mais pas seulement, on l'a bien compris, nous fait tant de bien, à les réponses en musique de Balou dans Le Livre de la Jungle.
Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Quelques rayons de miel et de soleil. Je dors d'ordinaire sous les frondaisons. Et toute la jungle et ma maison. Toutes les abeilles de la forêt butinent pour moi dans les bosquets. Et quand je retourne un gros caillou, je sais trouver des fourmis dessous. Essaye, c'est bon, c'est doux. Il en faut vraiment peu, très peu, pour être heureux.
Mais oui.
Pour être heureux.
Et oui, il en faut peu pour être heureux. Balou, dans Le Livre de la Jungle, répond à sa manière à la question « Pourquoi sommes-nous si sensibles à la beauté de la nature ?» Parce que ça fait du bien ou pas, car la nature, ça ne plaît pas toujours à tout le monde. La preuve, avec cet extrait de « Buffet froid » déniché par Hugo Violas, où l'on retrouve à la campagne Bernard Blier, Gérard Depardieu et Jean Carmet.
J'ai froid.
Moi aussi.
Respirez à fond. Oxygénez-vous. Profitez-en. Pour une fois qu'il pleut pas.
Mais je sens plus mes pieds.
Moi non plus.
Vous avez mis vos grosses chaussettes de laine?
Deux paires.
Allons faire un tour. Ça nous réchauffera.
Non, merci. Les sous-bois, ça m'inspire pas. Je préfère avancer en terrain découvert. Elle m'angoisse, cette forêt.
On avait dit que si le temps se levait, on irait faire une cueillette.
Une cueillette de quoi?
Champignons.
Le mec qui me fera bouffer des champignons, il n'est pas encore né. D'ailleurs, il va pleuvoir.
Buvons un coup de rouge.
Une foule l'estomac en l'air, leur picrate, il est trop vert.
Vous êtes chiants, les gars.
C'est pas nous qui sommes chiants. C'est la nature qui est chiante. Je m'emmerde, moi. J'en ai marre de la verdure. Tout est vert.
Tout est dit ou presque dans ce magnifique contre-exemple. Alexandre Lacroix, ça vous inspire quoi, cet extrait de Buffet froid?
Oui, j'aime beaucoup ce film Buffet froid. Il se passe dans des grands ensembles urbains construits dans les années 70, avec une espèce de poésie mélancolique de ces ensembles urbains qui sont filmés. Et tout d'un coup, les personnages se retrouvent en dehors de leur banlieue nord parisienne et sont totalement
perdus.
Paumés. Oui, c'est ce qui est en train de nous arriver. C'est-à-dire que je pense que pour beaucoup d'entre nous, désormais depuis 2008, il n'y a plus de la moitié de l'humanité qui vit en ville. C'est irréversible, ce processus. C'est-à-dire qu'on risque de passer d'ici la fin de ce siècle à 75% de l'humanité qui vit en ville. Et à mesure que nous grandissons sur le béton, que nous allons chercher les fruits au supermarché ainsi que les champignons, quelque chose d'un lien premier avec la nature est sectionné. Et il est évident qu'il y a un peu d'éducation nécessaire ou d'initiation nécessaire, qu'on peut pas transbahuter quelqu'un qui a grandi sur le béton et qui ne connaît que les compotes en petits sachets. On peut pas le transbahuter dans un verger, dans une forêt, dans les bois. Cependant, est-ce qu'on perd quelque chose? Oui, moi je pense qu'on perd quelque chose quand on n'est plus capable de trouver son chemin dans la forêt ou de trouver dans la nature une forme de réconciliation avec le monde et avec soi-même.
Parce que ce que vous mettez en avant aussi dans cet émoi qu'on éprouve devant la nature, vous convoquez dans cet ouvrage, Alexandre Lacroix, Devant la beauté de la nature, vous convoquez nos cinq sens. Alors, on a parlé de la vue, bien sûr, mais il y a aussi l'ouïe, le toucher, l'odorat. C'est vraiment notre corps entier qui est en jeu quand on est dans la nature, qu'on l'observe et qu'on est touché par elle.
Oui, et c'est là que la condition urbaine est en fait délétère, c'est-à-dire que nos sens sont en train d'être prodigieusement amoindris. Si on pense à notre capacité, par exemple, d'écouter la nature, je sais pas, demandez-vous combien de chants d'oiseaux vous reconnaissez? Presque aucun. Est-ce que vous reconnaissez les aboiements des chevreuils en automne, par exemple, ou le brame du cerf? C'est pas évident du tout. Nous ne savons plus écouter le paysage. Nos ancêtres, les chasseurs-cueilleurs, par exemple, pour eux, l'ouïe, c'était ce qui qui primait, parce que si, quand vous voyez l'ours ou le guépard,
c'est un peu tard, hein.
Vous êtes mort. Donc vous devez avant l'avoir entendu. L'odeur, bah, quand vous vivez en ville, vous fermez complètement aux odeurs, parce que qu'est-ce que vous avez à respirer ? Des pots d'échappement, les odeurs corporelles de transpiration, ou les flatulences de vos voisins, les WC pas propres. Il vaut mieux que vous vous coupiez complètement de tout ce qui se passe dans votre nez. Donc les oreilles, vous les réservez à écouter le bruit des machines ou les voix des autres êtres humains. Le nez, vous en êtes coupé. Le toucher, que nos ancêtres fussent chasseurs-cueilleurs ou agriculteurs, leur point commun, c'est que avec leurs mains, ils touchaient sans cesse la terre, le sol, ils bêchaient, ils sarclaient, ils cueillaient, ils écossaient, etc. Nous avons perdu ce contact du toucher permanent avec les objets naturels. Et quant à la vue, par une sorte de décision qui est aussi un grand tournant pour notre civilisation, nous avons les yeux rivés la plupart du temps à des écrans. C'est vrai que la campagne est ennuyeuse pour celui qui regarde toujours un écran et qui joue aux jeux vidéo ou peu importe. Pourquoi ? Parce que les sapins ne sont pas rétroéclairés, ils ne sont pas animés. La stimulation du nerf optique, la titillation du nerf optique qu'offre un paysage est infiniment plus douce que celle que propose un écran rétroéclairé ou des LED.
Alors je propose de nous arrêter justement sur notre vue, parce que même sans voir, justement, on peut être sensible à la beauté de la nature. Vous avez rencontré Alexandre Lacroix à l'Institut Valentin Huy, qui est l'Institut des jeunes aveugles de Paris, un jeune aveugle qui est aussi conteur, originaire de Guinée. Il s'appelle Alfadjo Camara et vous reproduisez dans cet ouvrage son approche, ses impressions d'Afrique. Je propose de les écouter dans la voix de Georges Abel sur RFI.
Un chemin, j'en reconnais la succession de matières sous mes pieds. Je ne confonds pas la poussière et la boue collante. Mais c'est l'intimité du chemin seulement qui me permet de comprendre à chaque pas où je suis. La familiarité, c'est par exemple le vent dans les ramures d'un arbre. Le vent qui agite doucement les feuillages. Lui, oui, c'est un proche, un parent, comme le sol qui suit mes pieds. Ou bien, je pense aux marigots, au son de la rivière qui coule. Ce son est retenu et contenu par les troncs des arbres et la végétation. Il coule lui aussi. J'aime aller m'asseoir là, près du marigot. Dans mon pays, il y a deux époques, la saison sèche et la saison des pluies. J'aime beaucoup les feuilles d'arbres et je sais, à leur toucher, quel est le moment de l'année? À la saison des pluies, elles sont souples et agréables à caresser. Puis, elles deviennent cassantes, se couvrent de sable et de poussière. Dans les jours les plus chauds, j'aime choisir un arbre. Je me mets sous son ombre, je sens sa fraîcheur. Puis, je quitte l'ombre et je marche. Parfois quelques minutes. Parfois plus longtemps, sous le soleil qui est écrasant, brûlant. Ensuite, je reviens sous l'arbre et sa fraîcheur redescend sur moi.
On s'y croirait, hein, en écoutant Georges Abel qui reprend les propos de Alfadjo Camara. C'est une description parfaite de cette nature-là.
Oui, c'est vrai que j'ai la démarche est la suivante, c'est que je cherche, ça m'a occupé surtout toute une partie du livre à décrasser nos sens, hein, les sens que décrasser nos sens, c'est-à-dire comprendre comment retrouver des voies d'accès sensorielles, perceptives à la nature. Nous qui sommes des citadins, comment on va faire? Et pour comprendre comment on peut faire, je suis allé interroger non pas seulement Alfadjo d'ailleurs, mais 11 aveugles. Et j'aurais toujours demandé quels étaient leurs paysages préférés, quels étaient leurs coins de nature préférés, justement pour voir ce qui se passe quand on enlève le primat de la vision. On vit dans une civilisation où la vue compte plus que tout, mais les aveugles ont des émotions esthétiques extrêmement intenses dans la nature. Alors ce que vous venez d'entendre, c'est la description de Alfadjo qui est spontanée, hein, qu'il m'a déroulé comme ça, et qui est la description en fait de ses sensations avec ce jeu avec la chaleur. Vous voyez, un aveugle va être sensible par exemple à l'eau, au cours autour du marigot, parce que l'écoulement de l'eau produit du bruit. Tous les aveugles que j'ai interrogés sont extrêmement sensibles à la mer pour la même raison, et au bruit du sac, du ressac, des vagues, et également les zones de chaleur, les zones d'ombre, de froid, qui vont être des occasions de jeu. En fait, il explique qu'il joue avec cet arbre qui va vers l'ombre, puis à l'extérieur de l'ombre. C'est sa manière à lui de s'imprégner du paysage. Et je trouve qu'il y a une leçon pour nous voyants, qui est évidente et qui est universelle d'ailleurs. On dépasse de loin le cadre du local ou du pittoresque africain. C'est que la leçon, c'est que face à un paysage, ben on peut sortir son smartphone et faire une photo, puis la mettre sur Instagram ou Facebook. Mais en fait, un paysage, c'est pas qu'un panorama, c'est pas que du visuel du tout, et que pour bien le savourer ou s'en imprégner, il vaut mieux, on peut aussi, un peu comme dans un baiser, hein, pour bien apprécier un baiser, il faut fermer les yeux,
d'accord.
Voilà. Et bien on peut de la même manière fermer les yeux et
devant un magnifique paysage,
oui,
ouais.
Et laisser venir d'autres sensations, se rebrancher sur le champ du monde, s'intéresser à la chaleur, aux sensations cutanées, au vent, au poids de l'air, à la texture de l'air. Les aveugles, il y a un aveugle qui me dit qu'il a voyagé en Jordanie, et qu'à un moment dans le désert, il trouvait que l'air était incroyablement décanté et qu'il a compris pourquoi tous les prophètes venaient de ce coin du monde, parce que l'air est décanté. Mais on voit bien ce qu'il veut dire. Il y a des lieux où il y a une sorte de qualité de l'air sur la peau, un contact de l'air sur la peau qui est particulier, minéral dans le désert, léger et minéral, extrêmement épais et lourd dans les forêts tropicales, parfois collant dans les forêts de résineux. En fait, c'est tout ça qu'il s'agit de sentir et de redéployer. Quand je vous dis qu'on manque de traités d'esthétique pour la nature, c'est qu'en fait, on ne sait pas comment faire. Par exemple, c'est là qu'un traité est utile. Par exemple, vous êtes devant un beau paysage, est-ce que vous devez continuer à marcher pour l'apprécier pleinement, ou est-ce qu'il faut s'asseoir et regarder? Voilà une question. En fait, quand vous êtes à un concert, vous savez ce que vous devez faire, on vous l'a enseigné. À un concert de musique, vous devez être assis, écouter, être calme.
Bon, mais on n'a pas eu d'éducation à la beauté de la nature, ou à ce que nous fait la nature.
Voilà. Et on peut aller prendre la leçon du côté des aveugles, qui ont plein de choses à nous raconter sur la polysensorialité des paysages.
À propos de polysensorialité des paysages, vous avez parlé aussi d'écouter le chant du monde. Voilà pourquoi vous avez choisi, Alexandre Lacroix, d'écouter le bioacousticien, formidable chasseur de sons de nature, Bernie Krause, sur RFI. Je propose d'écouter Desert Love In, et vous nous direz pourquoi ces véritables sons de nature remixés en musique ont des choses à nous dire. Desert Love In, Bernie Krause sur RFI, formidable chasseur de sons de nature, mis en musique. Pourquoi c'est si important d'écouter ces sons, et surtout le travail du bioacousticien Bernie Krause, qui a été montré dans une exposition il n'y a pas longtemps à la Fondation Cartier à Paris, et qui illustrait bien notre surdité et puis la suppression de tous ces sons de nature petit à petit.
Oui, alors Bernie Krause, c'est un musicien et un ingénieur du son qui a croisé les Doors, qui a travaillé avec eux, donc il vient du pop rock. Mais depuis 40 ans, il fait un travail un peu extraordinaire, c'est qu'il recueille des soundscapes. C'est un enfant, un fils spirituel de Murray Schafer, mais dont on a parlé, qui a inventé la notion de paysage sonore. Hein. Et ce qui est intéressant, donc il a eu consacré un temps et des moyens très conséquents
à collecter des sons. Nature, hein.
Sur des bords de rivières, dans des forêts, etc. Souvent en Californie, où il vit, mais un peu partout ailleurs dans le monde. Et maintenant que ça fait 40 ans qu'il se promène et qu'il recueille des sons, ça veut dire que très, très simplement, hein, il va aller sur le bord d'une rivière, en forêt, et il va enregistrer pendant 3 heures l'aube, les sons de l'aube. Eh bien, maintenant qu'il a le recul et qu'il est retourné plusieurs fois dans des lieux, il a la possibilité de nous faire entendre l'extinction du monde vivant. C'est-à-dire la fin de la biodiversité. Et là, il n'y a pas besoin d'une grande leçon d'écologie politique. C'est-à-dire que
on écoute avant, après. On écoute les sons de Bernie Krause il y a 20 ans.
Vous écoutez un bord de rivière en 1980 et aujourd'hui, vous vous apercevez que le son a été divisé par 3 ou 4. Ça correspond à ce qu'on sait. Hein, à peu près 40% des populations animales ont disparu. Une autre manière de le dire, c'est que si on pèse tous les êtres vivants sur la Terre, les hommes, le poids des Homo sapiens correspond à 97% du poids du vivant à la surface du sol terrestre, et il y a 3% pour les autres espèces. Nous sommes une espèce prédatrice qui est en train de laisser peu de terre sauvage aux autres vivants avec qui nous avons pourtant la terre en partage.
Et finalement, pour nous sensibiliser à cette crise écologique, vous dites que c'est aussi une crise esthétique. Et au fond, un bon moyen, c'est aussi de retrouver peut-être toutes les sensations que nous procure la nature.
Exactement. Je pense que le discours de l'écologie politique classique, celui des militants, n'est pas entrer dans le cœur du public pour de bonnes raisons, parce que c'est un discours dans lequel d'abord il y a de l'expertise, des chiffres, c'est compliqué, lire un rapport du GIEC, du groupe interdisciplinaire de recherche sur le climat, c'est compliqué à lire, donc il y a de l'expertise, il y a de la catastrophe, on vous trace des scénarios qui vous promettre le pire pour demain, on vous fait miroiter des apocalypses, et puis en troisième lieu, il y a de la culpabilité, hein. On vous fait culpabiliser sur vos habitudes de consommateurs, de producteurs, et ce cocktail, si vous voulez, d'expertise, de catastrophe et de culpabilité, les gens n'en veulent pas, je le comprends, il n'y a pas, à ma connaissance, de gouvernement vert élu nulle part sur cette planète, et pourtant il y a une urgence écologique. Je pense en fait qu'on peut procéder complètement différemment, et que tout ce dont j'ai parlé au cours de cette émission, c'est-à-dire l'esthétique de la nature, nous reconduit aussi aux politiques, mais avec d'autres outils, et qu'on peut partir d'un émerveillement mutuel. Si vous demandez à des gens de droite comme de gauche s'ils ont besoin de beaux paysages, d'une belle nature pour vivre, si par exemple demandez si les gens, on a perdu au XXe siècle la possibilité de se baigner dans les rivières, hein. Les rivières sont devenues presque imbaignables presque partout. Si on perd demain la possibilité de se baigner en mer parce que c'est toxique, est-ce qu'on perd quelque chose? Là les gens vous répondront sans doute oui, on perd quelque chose. Soyons fidèles à nos émerveillements, soyons fidèles à notre admiration pour la nature. Et partons de cette admiration plutôt que de récits d'apocalypse.
Soyons fidèles à nos émerveillements. Merci beaucoup Alexandre Lacroix. Je crois qu'on va s'arrêter sur cette jolie phrase. Merci d'être venu partager dans toutes ces pistes d'émerveillement. Je rappelle le titre de votre ouvrage érudit et passionnant, Devant la beauté de la nature, paru aux éditions Alary. Et merci à Caroline Fillette et Georges Abel de la rédaction Mandingue de RFI pour les lectures. Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur le site de RFI et sur l'appli RFI Pure Radio. Au plaisir de vous retrouver demain avec Hugo Violas à la réalisation et Sophia Bédard en coulisses. Surtout, restez curieux, amis auditeurs, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles à l'écoute de RFI. Le prochain journal, ce sera dans une minute.